quelques produits énergétiques. Et donc, il me semble que les marchés, parlons d'eux, font, en tout cas à court terme, le pari d'une reprise, en tout cas d'une reprise chinoise.
Alors, on l'évoquera bien sûr, le rôle de la Chine dans ces évolutions. Pour ce qui est des chutes brutales, on va commencer avec le pétrole, Philippe Chalmin. Une très forte chute au début du coronavirus, avec aujourd'hui un baril de Brent qui remonte à son niveau d'avant l'arrivée de la pandémie en mars, mais on est encore loin des prix du début d'année. Le cours évolue entre 18 et 43 dollars depuis le début du mois. Alors, il est vrai qu'on est loin des 70 dollars du début de l'année, mais on n'est plus très loin des prix du début du mois de mars, à la veille du déclenchement de la crise sanitaire mondiale. Est-ce qu'on peut envisager un retour à la normale pour le pétrole ?
Probablement pas. Je voudrais d'ailleurs attirer votre attention sur le fait que le produit dont le prix a le plus baissé jusqu'à aujourd'hui, depuis le début de l'année, c'est très indirectement lié à la pandémie, c'est le gaz naturel. Il faudra qu'on en dise un mot. Sur le pétrole, je crois qu'on a deux histoires. On a une première histoire qui est celle d'un marché surcapacitaire, et cela dès 2019, avec un excédent de l'ordre d'un million de barils de jour au début de l'année 2020. Et quand vous dites que le prix a été à 70 dollars le baril, vous oubliez simplement de dire que c'était au moment de la mort du général Soleimani, abattu par un drone américain à Bagdad, un moment où le monde croyait que l'on risquait d'avoir une escalade entre l'Iran et les États-Unis, que le détroit d'Ormuz pourrait être bloqué. Et à ce moment-là, on n'est monté que à 70 dollars le baril, ce qui apparaît ridicule par rapport à la menace géopolitique qui était celle que l'on connaissait à l'époque. À ce moment-là, nous sommes sur un marché qui est un marché excédentaire, au point que l'Arabie Saoudite et l'ineffable prince Mohammed bin Salman veut absolument faire remonter les cours. Parce que souvenez-vous, la grande affaire de la fin de l'année dernière, ça avait été la cotation en bourse de Saudi Aramco. L'orgueil saoudien exigeait que l'action Aramco reste élevée, et pour cela, il fallait que le pétrole reste dans la zone des 60 dollars le baril, alors que naturellement, il pouvait descendre, et il était à l'époque vers 50 dollars le baril. C'est à ce moment-là que, souvenez-vous, tout début mars, on a eu cette querelle entre la Saoudite et la Russie. Mohammed bin Salman, un petit peu comme vous savez, le petit prince Abdallah dans Tintin au pays de l'or noir, a piqué sa crise et il a décidé de rompre tous les accords et de récupérer des parts de marché. Et à ce moment-là, le pétrole est tombé grossièrement de 50 à 30 dollars. Ça, c'était avant le Covid. Et puis ensuite, et c'était, là on montre qu'il avait pris la décision la plus stupide qu'on puisse imaginer, que finalement, le Covid allait se traduire par une baisse de la demande. Il n'y avait plus d'avions, les gens ne prenaient plus de voitures, etc. On a eu une baisse de la demande qui, au maximum, a quasiment été de 25 à 30% de la demande mondiale. Et ça a été la poursuite de la chute. Oublions le passage des prix négatifs. On est tombé, toujours sur le baril de Brent, on est tombé à 15 dollars. À ce moment-là, tonton Donald a sifflé la fin de la partie. Il a contraint le petit prince saoudien à revenir à la table des négociations. Les Russes ont accepté d'y participer aussi. Les Américains ont même payé pour que les Mexicains acceptent des réductions. Et on a eu quand même une réduction de quasiment 10 millions de barils jour et même un peu plus de la production, ce qui fait qu'on est remonté. On est aujourd'hui à 40 dollars, mais on est à 40 dollars parce que l'OPEP et les Russes ont accepté de sortir, au mois de juin en tout cas, plus de 10 millions de barils jour, plus de 10% de la production mondiale, ce qui permet de commencer à étancher un peu les stocks. Mais vous ne faites pas d'illusions, c'est mon opinion, et donc elle peut être tout à fait discutable. Il ne faut pas se faire d'illusions, nous sommes quand même, et nous restons potentiellement surcapacitaires.
Alors, vous l'avez évoqué, baisse de la demande, je me tourne vers vous, Yves Jégourel. Qu'est-ce que l'on peut dire des perspectives finalement pour le pétrole? On parlera du gaz ensuite. On peut rappeler que les États-Unis étaient devenus le premier producteur mondial grâce au pétrole de schiste, mais cette position finalement n'est tenable qu'avec un baril de pétrole au-dessus de 40 dollars américains et rentable à partir de 60 dollars le baril. Alors, quel avenir pour tout cela, et en particulier peut-être pour le pétrole américain, Yves Jégourel?
Écoutez, méfions-nous des seuils sur la rentabilité, parce que bien évidemment c'est une variable importante, mais j'insiste sur un point que l'on n'évoque pas suffisamment dans le monde des matières premières, c'est l'intelligence artificielle qui change énormément de choses, à la fois sur l'observation des tankers, sur l'observation du niveau des stocks, sur le repérage des gisements pétroliers, ainsi de suite. Et donc ça, ça crée une forte résilience. Donc moi, j'avoue que je ne sais pas ce que sera l'industrie pétrolière dans un an ou deux ans. Les choses vont très très vite là-dessus. Et je rappelle qu'en 2014, nous étions trompés sur la rentabilité du gaz de schiste. Après, il y a évidemment le facteur géopolitique qui est tout à fait considérable. Comme l'a dit Philippe, il y a un point important à souligner pour vos auditeurs, c'est que le pétrole aujourd'hui, en raison de la production américaine, ne réagit pas ou très peu aux tensions géopolitiques, en tout cas pour l'instant, dans les pays du Golfe. Je pense également à ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz et les attaques sur les infrastructures saoudiennes. Donc ça, c'est un point important. Et puis, vous redire également que aujourd'hui, la réalité des marchés, c'est une réalité très spéculative, c'est une réalité de court terme. Le moins 37 dont les médias ont énormément parlé n'avait en réalité aucun sens. Il n'y avait pas de prix négatif sur le pétrole. On peut estimer qu'on était autour de 10 dollars le baril sur le WTI au point le plus bas. C'était des contrats à terme. Des contrats à terme, c'est un bout de papier, si vous voulez. Tant que vous le gardez, bah, vous risquez d'être livré physiquement du pétrole. Or, les personnes qui détenaient ces contrats n'avaient pas la capacité à stocker, n'avaient pas les débouchés, et donc ce sont, pour une échéance donnée qui était l'échéance mai, se sont libérés à tout prix de ce papier, ont accepté de donner 37 dollars pour s'en libérer à ceux qui détenaient des espaces de stockage. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il me semble que les marchés, dans leurs composantes court terme, dans leurs composantes spéculatives, sont sur l'idée qu'on devrait avoir plus de dynamisme économique, c'est une évidence, hein, ce que je vous dis, on devrait avoir plus de dynamisme économique. Mais on a énormément de prudence, et donc vous aurez des spéculateurs qui seront prêts à parier à la baisse dès lors qu'il y aura le moindre choc. Donc comme je le dis malheureusement souvent sur mes prévisions matières premières, peu de tendance, légèrement baissière, je suis tout à fait d'accord avec Philippe là-dessus, et surtout énormément de volatilité. Et cette volatilité, il faudra la gérer, et c'est la grande le grand élément de complexité pour les entreprises du monde entier.
Alors, beaucoup de volatilité, une réalité des marchés très spéculative. Que dire alors, Philippe Chalmin, du gaz? Marché du gaz durablement ou pas bouleversé par la pandémie?
Alors, le marché du gaz a deux caractéristiques par rapport au pétrole. Un, il n'y a pas le même niveau de spéculation, puisque nous sommes, il y a quelques marchés dérivés sur le gaz, mais ils sont encore balbutiants, ils sont relativement étroits, donc il n'y a pas le même amplificateur et caisse de résonance que peuvent être les marchés à terme pour le pétrole. Et d'autre part, sur le gaz naturel, nous avons fait le résultat de considérables investissements qui ont été consentis dans un certain nombre de pays, que ce soit l'Australie, que ce soit le Qatar, que ce soit les États-Unis, bien entendu. Nous avons atteint des niveaux de prix qui n'ont jamais été aussi bas, qui font d'ailleurs que les États-Unis ne peuvent plus exporter aujourd'hui de gaz naturel liquéfié, tout simplement parce que ça n'est pas rentable. Il faut savoir, alors c'est un peu compliqué à expliquer à nos auditeurs, les prix du gaz naturel sont mesurés en dollars le million de BTU, ça, le British Thermal Unit. Pour vous donner un ordre de grandeur, le gaz naturel liquéfié coûtait 20 dollars le million de BTU, ça a été son maximum au moment de l'incident de Fukushima, lorsque le Japon a arrêté totalement son nucléaire, a eu besoin de gaz naturel. Jusqu'à il y a quelques temps, en Europe, on payait notre gaz naturel sur la base de entre 8 et 10 dollars le million de BTU. Nous sommes tombés à 2 dollars. C'est-à-dire que le gaz naturel liquéfié qu'on importe en Europe coûte à peu près le même prix que le gaz gazeux aux États-Unis. Donc, toute la chaîne de liquéfaction, de méthanier, etc. n'est absolument plus rentabilisée. Donc, là, le Covid a probablement aggravé un peu la chose, mais nous sommes dans une situation tout à fait classique de surproduction. Alors, ce qui est un très bon signe, parce que comme le gaz naturel n'est pas cher, ben ça va enfin peut-être remplacer le charbon, qui, comme vous le savez, est quand même quelque chose de très, très sale. Et je pense que le gaz naturel peut être la grande énergie de transition entre l'époque que nous vivons aujourd'hui, qui est le temps du pétrole et du charbon, et ce dont nous rêvons demain, c'est-à-dire le temps des énergies renouvelables et non carbonées.
En tout cas, Yves Jégourel, la reprise du développement des transports, notamment aériens, et de la consommation de carburant, elle n'est pas pour demain. Donc, ce qui peut ajouter peut-être des éléments d'analyse si on doit entrer dans un processus de prospective quant au prix, entre autres, du pétrole.
Oui, c'est-à-dire qu'on sait que la période de convalescence, sans parler de seconde vague, ce sera au moins deux ou trois ans. Donc ça explique toute la prudence des marchés. Lorsqu'il y a des opportunités à prendre, des opportunités encore une fois spéculatives, on y va, mais on est prêt à inverser des positions dès lors qu'il y aurait des signaux à l'avant en sens contraire. Je voudrais revenir, si vous le voulez bien, sur la problématique du gaz naturel, parce que enfin nous parlons du gaz naturel dans une mission géopolitique. On parle évidemment beaucoup de pétrole et on le comprend, mais je crois que la grande question politique d'aujourd'hui et de demain, c'est précisément le gaz naturel et le LNG. On est à moins 57% effectivement, à moins 57% depuis le début de l'année, autour de 2 dollars, comme l'a dit Philippe. On était à 11 dollars, rendez-vous compte, fin 2018. Et il y a deux fronts dans cette guerre du gaz, si je peux utiliser cette expression. On a un front asiatique, parce que la Chine, c'est maintenant le premier consommateur de GNL, et puis deux compétiteurs acharnés, le Qatar et l'Australie, avec des investissements absolument considérables, ça a été évoqué. C'est-à-dire que pour la première fois cette année, alors ça dépendra des chiffres qu'on peut avoir, mais l'Australie est le premier exportateur de GNL avec 77,5 millions de tonnes, le Qatar n'est qu'à 75. Mais cette bataille ne fait que commencer, parce que le Qatar a son fameux champ Nord et prévoit de monter sa production à 126 millions de tonnes en 2027, alors que l'Australie a des capacités de production supplémentaires. Donc très très clairement, on va aller sur une guerre des prix et il y aura des phénomènes de concentration tout à fait importants dans ce domaine. L'autre front, c'est le front européen, parce qu'on a cette problématique Nord Stream 2, avec évidemment une grande complexité pour les États-Unis. La Russie sait bien que les approvisionnements européens de l'Europe vont diminuer, donc il y a une opportunité, et c'est le sens de Nord Stream en contournant l'Ukraine. Et puis les Américains, on parlait effectivement de cette faiblesse des prix, mais il y a un autre problème qui est que s'il y a de l'approvisionnement en gaz terrestre en Europe, c'est moins d'exportation de GNL. Et donc dans les sanctions autour de Nord Stream, il y a beaucoup évidemment d'interrogations politiques.
Et il y a également, et on terminera avec les questions énergétiques, Philippe Chalmin, les tensions que l'on craint ici et là en Méditerranée.
Absolument. Plutôt sur le gaz, d'ailleurs. Si le cher monsieur Erdogan s'intéresse à la Libye, c'est de pouvoir mettre la main sur les eaux territoriales libyennes, de la même manière que les Turcs font des forages actuellement dans des zones au large de Chypre qui sont pas très très claires. Et on sait l'importance des potentiels gaziers de toute la région au large d'Israël, de l'Égypte, de Chypre et donc aussi de la Libye. Autre sujet, alors c'est moins méditerranéen, c'est moins maritime, c'est le sujet des gazoducs. Et dans le bras de fer entre les États-Unis, enfin entre Trump et Poutine, pour personnaliser un peu, il y a tout le dossier de Nord Stream 2, de la construction de ce deuxième gazoduc passant par la Baltique et évitant la Pologne, l'Ukraine et donc un certain nombre de voisins gênants pour les exportations russes. Les Russes qui souffrent actuellement, parce que la baisse des prix dont nous avons parlé, elle affecte incontestablement le prix auquel Gazprom vend son gaz aux principaux gaziers européens.
Géopolitique, nous vous retrouvons Philippe Chalmin et Yves Jégourel après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les matières premières. Nous retrouvons nos invités Philippe Chalmin, professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine, expert des questions énergétiques et matières premières, président et fondateur de Cyclope, ouvrage collectif et bible des matières premières, dont la dernière édition vient de sortir aux éditions Economica, et Yves Gégourel, directeur adjoint de Cyclope et maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Nous avons beaucoup parlé énergie, pétrole et gaz dans la première partie de l'émission, avec l'impact sur ce secteur du coronavirus. Yves Gégourel, je me tourne vers vous. Vous êtes spécialiste, entre autres, des métaux. Qu'est-ce que l'on peut dire de l'impact de la situation sur les métaux ?
Alors, elle a été terrible jusqu'au mois de mars, hein, puisque tous les métaux ont chuté. Je dis bien tous les métaux. Donc, c'était vraiment une baisse homogène. Je parlais au début d'un choc psychologique. C'est ce qui a fondamentalement joué. Parce qu'évidemment, lorsqu'on parle de métaux, on parle de la Chine. Et donc, on était en confinement, donc il y avait une moindre demande. C'était tout à fait terrible. Par contre, on a, depuis cette période-là, un rebond important. Et donc, finalement, j'ai le sentiment qu'il y a trois grandes catégories. Il y a les métaux qui restent en territoire négatif, et qui ont des fondamentaux, qui restent des fondamentaux positifs à, je vais être prudent, mais à moyen long terme. Donc là-dedans, on a le cuivre. Le cuivre avait perdu moins 25%, et là, on n'est plus qu'à moins 2% depuis le début de l'année. Le nickel, même si le nickel a plus de mal, on en reparlera peut-être, à reprendre de la vigueur, ou l'étain. On a, deuxième catégorie, ces métaux qui ont chuté et dont les fondamentaux restent dégradés. L'aluminium, il faudra qu'on en parle parce qu'il y a des choses tout à fait importantes qui se passent sur le marché de l'aluminium. Le platine qui a énormément souffert de la situation. Et puis, il y a ceux, naturellement, qui sont en territoire positif. Je ne vais pas vous surprendre en vous parlant de l'or, du palladium également. Et puis, une grande matière première dont on doit également parler, c'est le minerai de fer qui est à plus 10% et qui un temps a surperformé l'or. Donc ça c'est toutes les hétérogénéités qu'on peut trouver sur le marché des métaux.
Alors le cuivre qui intéresse particulièrement l'Afrique subsaharienne, mais il y a d'autres parmi ces métaux que vous avez cités, Yves Gégourel, nickel, étain, aluminium, platine, les uns et les autres ayant réagi de manière différente au coronavirus. Quelques mots sur chacun pour mieux comprendre.
Alors en réalité, vous savez, on parle de l'avant et de l'après, mais dans le monde des métaux, il n'y a pas tellement eu ça. C'est-à-dire que ceux qui ont chuté et qui ont du mal à se remettre de la pandémie de Covid, c'est ceux qui, en réalité, étaient déjà faibles en 2019. Alors, pour vous parler peut-être de l'aluminium, techniquement, est un marché qui est en déficit, sauf que lorsqu'on parle de déficit, on regarde uniquement l'offre et la demande, mais il faut regarder le niveau des stocks, et on a des niveaux de stocks qui sont tout à fait considérables sur l'aluminium, et tout le monde le sait. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune raison pour que les prix repartent. L'aluminium sera un marché intéressant à considérer parce que dans la lecture quelque peu géopolitique ou géostratégique que l'on peut faire des marchés de matières premières, on va observer une guerre des prix. Et cette guerre des prix, on l'aura de toute évidence sur l'aluminium, avec des acteurs que l'on n'avait pas l'habitude de regarder. Il faudra regarder du côté du Golfe et du côté de Bahreïn notamment, hein, qui a très fortement augmenté ses exportations. Donc on est dans une situation qui est difficile et certains opérateurs vont jouer la carte des volumes pour compenser l'effet prix. Et puis, à côté de cette guerre des prix, on va avoir ce que j'ai tendance à appeler une insurrection environnementale ou une rébellion environnementale. L'aluminium, le principal producteur, c'est la Chine. Il domine à 50% le marché. Sauf que c'est une production qui est alimentée avant tout par du charbon. Donc c'est extraordinairement polluant. Alors que dans les autres pays, c'est de l'hydroélectricité. Donc on va aller vers une forme de révolte pour lutter contre la domination de la Chine dans le cas de l'aluminium. Eh bien, on va promouvoir à la fois des critères de traçabilité, surtout des critères bas carbone. Donc ça, c'est important. Sur le cuivre, il compte parmi les métaux de la révolution, de la transition environnementale. Donc on sait qu'on aura besoin de cuivre et on a des contraintes sur l'offre. Donc c'est un marché qui est très nerveux, hein, qui est très spéculatif encore une fois, mais les fondamentaux sont bons. On n'a pas de découverte majeure sur le cuivre. On a des problématiques environnementales, j'ai envie de dire climatiques sur le cuivre et ça conduira à une appréciation des cours. Alors, le minerai de fer, pardon.
Oui, justement, voilà, j'y venais, au minerai de fer extraordinaire, en tout cas c'est ce qui se dit, stabilité du minerai de fer. Pourquoi et comment le fer résiste-t-il ?
Il ne faut pas s'en réjouir parce qu'on est sur un marché qui est un marché contraint sur l'offre. Il y a eu la catastrophe en janvier 2019, la catastrophe de Brumadinho, qui était une rupture de barrage. Et donc l'offre de minerai de fer reste contrainte avec deux grands producteurs, donc le Brésil et l'Australie, et un très grand consommateur, la Chine. Donc on a une demande de la part de la sidérurgie chinoise qui est plutôt bonne. Moi j'ai trouvé que l'acier chinois, alors il a chuté bien évidemment, mais c'est plutôt bien tenu parce qu'il y a évidemment les plans de relance chinois au travers des infrastructures et ça favorise l'acier. Il y a une dimension stratégique, il y a une dimension symbolique dans l'acier. Et puis comme je vous le disais, ces contraintes qui datent de 2019 sur l'offre de minerais de fer, auxquelles se sont ajoutés des phénomènes climatiques encore une fois. Il y a eu des pluies diluviennes au Brésil, il y a eu le cyclone Damien en Australie et ça a contribué à faire augmenter les cours d'à peu près 10%. Donc on est au-dessus pour la référence à 62%. On est au-dessus de 100 dollars la tonne, ce qui est tout à fait considérable et qui d'ailleurs devrait poser un problème géostratégique pour la Chine, qui est très fortement dépendante de cette importation.
Des métaux, si vous le voulez bien, on passe aux produits alimentaires pour voir un peu quelle est la situation aujourd'hui. On a noté un fort repli du maïs et du sucre, le riz et le blé en hausse, en revanche, du fait de la crainte de manquer de la part de certains importateurs. On pense à l'Égypte et à l'Algérie. On a craint à un moment une pénurie alimentaire, Philippe Chalmin, elle n'est pas arrivée.
Non, et d'ailleurs, c'est assez curieux parce que dans la mesure où on avait fait au départ un certain parallèle entre cette crise de 2020 et la crise financière de 2008. En 2008, il y avait eu un peu avant, et puis bien après aussi, la crise financière, il y avait eu une crise alimentaire liée à une suite de mauvaises années, un phénomène El Niño très marqué, etc. Donc on avait eu une flambée des prix agricoles, et je ne sais pas pourquoi, mais en début d'année, nombre de vos confrères notamment, alimentés d'ailleurs par des rapports pessimistes venant de la FAO, ont voulu absolument qu'il y ait une crise alimentaire durant ce Covid. Il n'y en a pas eu. Il y a eu effectivement, vous l'avez mentionné, quelques petites tensions sur le marché du blé et du riz liées à des achats de précaution. Certains gouvernements ont fait un peu comme les ménages qui ont vidé les linéaires de supermarchés de farine et de pâtes alimentaires. Bah, il en a été un peu de même en ce qui concerne le blé dur aussi, et le riz. Ça n'a pas duré très très longtemps. Au contraire, nous sommes dans une situation où le monde n'a pas manqué, première chose. Deuxièmement, nous allons probablement, sur la campagne 2020-2021, battre des records de production mondiale. Jamais le monde n'aura autant produit de grains, mais aussi de sucre, de café, etc. Il y a 34 ans, 35 ans, le monde produisait 1,5 milliard de tonnes de grains. Et quand je dis les grains, c'est les céréales et les graines oléagineuses. Eh bien là, sur la campagne 2020-2021, nous devrions dépasser les 3,3 milliards de tonnes. Ce qu'a été d'ailleurs la révolution agricole que le monde a pu connaître, et il faut largement le rappeler. Alors malheureusement, entre guillemets, cette abondance va se traduire par une pression à la baisse, alors qui a déjà été réelle, parce que certains produits agricoles ont été les victimes collatérales des aventures pétrolières. Le sucre, parce qu'au Brésil, avec la chute des prix de l'éthanol, eh ben on a préféré faire du sucre plutôt que de l'éthanol. Le maïs, parce qu'un tiers du maïs américain sert à faire de l'éthanol aussi. L'huile de palme, c'est pas l'éthanol, c'est le biodiesel qui a joué un peu le même rôle. Et même, on peut mettre dans la même catégorie le coton, qui a subi une double peine. D'une part, l'effondrement de la demande de vêtements et le fait qu'on est déjà en train de préparer des collections d'hiver alors qu'on n'a pas acheté des collections d'été. Mais surtout, les fibres synthétiques redeviennent ultra compétitives par rapport à notre malheureux coton. Mais on peut extrapoler, on est en situation excédentaire sur le marché du café, par exemple. On est à peu près à l'équilibre sur le cacao. Alors, les seuls produits pour lesquels nous ayons encore un petit peu de tension, il faut le rappeler, parce que ça avait été la grande actualité de 2019, c'était une pandémie venant de Chine. Ça n'était pas le Covid, mais c'était la peste porcine africaine. Mmh. Et la peste porcine africaine, qui a quand même éradiqué pratiquement la moitié du cheptel chinois, a eu au moins le mérite, par l'importance des importations chinoises, de soutenir le prix du porc et de faire que les prix dans les campagnes bretonnes aient été relativement rémunérateurs.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Alors, puisque vous parlez de la France, Philippe Chalmin, justement, et j'en reviens à la question du blé, les récoltes, elles démarrent en ce moment en France, avec 12 jours d'avance. Il faut dire que la météo au mois de mars a été incroyablement ensoleillée et plutôt chaude. Et on craint pour la France des rendements faibles cette année de céréales. Il y a matière à inquiétude ?
Disons que la France, il faut souligner que malgré le Covid, malgré les problèmes de logistique, la France a réalisé une très belle campagne d'exportation, a profité d'ailleurs en fin de campagne, a récupéré des marchés sur l'Égypte, sur l'Arabie Saoudite, que les Russes n'étaient plus en capacité d'honorer. C'est vrai que nous avons souffert, au nord de la Loire en particulier, d'un certain déficit hydrique. Il a quand même plu sur la fin, mais nous n'aurons probablement pas les rendements que nous avions eu l'année dernière. Ceci étant, ça va probablement être compensé en termes de qualité. On sait que la production va être probablement un petit peu réduite aussi, puisque ce stress hydrique a touché une bonne partie de l'Europe de manière inégale. Il devrait quand même concerner aussi l'Ukraine. L'Ukraine va faire probablement et va avoir probablement une production un petit peu plus faible que ce que l'on avait connu l'année dernière. Par contre, on s'attend à une production, notamment de la Russie, relativement exceptionnelle. Globalement, vous voyez, je peux vous donner les derniers chiffres émanant des organisations internationales à peu près fiables. La production mondiale de blé passerait cette année de 764 à 777 millions de tonnes, et la production européenne diminuerait effectivement de 154 à 140 millions de tonnes à peu près. Ça fait une quinzaine de millions de tonnes de moins, et on le retrouvera un peu au niveau français. Je dirais que ce sont les aléas climatiques qui font partie de la vie des campagnes.
Alors, comment contenir la récession qui s'annonce ? Il va falloir des montagnes de dollars et d'euros pour faire repartir les économies. Il faudra qu'il n'y ait pas de guerre commerciale sino-américaine, que les phénomènes météorologiques ne soient pas extrêmes, que la colère des populations réduites au chômage ou plongées dans une plus grande pauvreté ne provoque pas de paralysie supplémentaire au moment de payer les additions. Ce sont les pays pauvres et émergents, Yves Jégourel, qui sont les principales victimes de la baisse des échanges. La montée du protectionnisme dans le monde et les tensions commerciales entre Pékin et Washington risquent fortement d'accentuer la crise et de stopper l'ascension des pays à bas et moyens revenus.
Oui, tout à fait. La conjoncture macroéconomique que l'on connaît n'est de toute évidence pas favorable à ces pays qui sont ultra dépendants de leurs exportations. Donc on observe un effet direct, hein, lorsqu'ils sont exportateurs de matières premières, mais ils subissent l'effet prix, un effet indirect, comme je l'évoquais, autour de la croissance économique. Et puis je voudrais insister aussi sur les conséquences structurelles de la crise des matières premières et de la crise macroéconomique. C'est que beaucoup de ces pays, alors on pourrait en discuter, hein, enfin on pourrait discuter de la pertinence économique de cette stratégie, mais beaucoup de ces pays ambitionnaient de transformer davantage les ressources extraites du sol et du sous-sol. Et aujourd'hui, je pense que ces stratégies vont être extraordinairement complexes. Je vous parlais de l'aluminium précédemment. Si je prends la Guinée dispose de bauxite. Cette bauxite, vous la transformez idéalement en alumine et puis vous la transformez après en aluminium. Ça risque d'être compliqué parce que c'est pareil, il y a une surcapacité sur l'aluminium. Donc est-ce qu'on va aller vers plus de transformation et est-ce qu'on va favoriser le développement économique à long terme de ces pays-là ? Je n'en suis pas certain. Et puis il faudra qu'on observe aussi c'est important de le dire, les stratégies de fusion, acquisition, prise de participation, tout ce que vous voulez, dans ce contexte de prix bas, dans ce contexte difficile. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'en période de crise, il y a aussi des bonnes affaires à opérer, et je regarderai évidemment les stratégies chinoises de ce point de vue-là, notamment sur le sol africain.
Alors, Philippe Chalmin, le Cyclope 2020 voit dans le Covid l'étincelle du changement, accélérateur de changement, éclairage.
Alors là, c'est une thèse que je présente, qui est de faire de cette crise de 2020 pas seulement une petite crise d'ajustement comme on en a connu dans l'histoire de Cyclope, la crise asiatique de 97, la crise Internet de 2001 ou la crise financière, celle des subprimes de 2008. Et je me demande si cette crise provoquée par le Covid n'est pas, au fond, l'étincelle, non pas d'une crise, mais d'une mutation beaucoup plus profonde, à l'image de ce qu'avaient pu être les crises de 1929, et peut-être, et c'est là que la comparaison est peut-être plus intéressante, la crise de ce qu'on avait appelé la crise de 1974, la crise des années 70, qui n'avait pas été seulement en 1974 le premier choc pétrolier, mais qui marque, de manière peut-être un peu symbolique, la fin des 30 glorieuses, la fin de cette période de bonheur économique pour le monde occidental, et même pour le monde tout court, qui avait été la période de l'après-guerre. Je me demande si, de manière un peu symbolique là aussi, cette crise ne marque pas la fin d'autres 30 glorieuses, commencées en 1990, les 30 glorieuses de la mondialisation heureuse. Et une mondialisation qui effectivement a été heureuse, je ne fais pas partie des gens qui crachent sur la mondialisation, elle a permis un décollage économique, mais elle a aussi provoqué de tels déséquilibres qu'il est probable que nous entrons dans une autre période, marquée au niveau des États d'ailleurs, par une plus grande intervention des États, une moindre croyance aveugle dans l'efficience de la main invisible du marché. Comme j'aime beaucoup à rêver, je me dis que c'est peut-être un virage vers la prise en compte de ce que pourrait être une véritable économie du bien commun.
Yves Jégourel, en guise de conclusion.
Bon, il va y avoir une réflexion, je suis d'accord, autour des chaînes de valeur internationales. Après, les matières premières restent. Les matières premières sont des commodités avec des grands marchés internationaux et ça, je ne le vois pas changer. Sur l'intervention des États, oui, on parlait du bon et du mauvais gouvernement pour les bonnes raisons et pour les mauvaises raisons. J'observe, si on rentre dans le champ de l'utopie, qu'il y a quand même un renoncement politique et intellectuel. Il y a une très forte volatilité, il y a une instabilité majeure sur les matières premières qui est finalement consubstantielle à ce que sont les matières premières. Mais rappelez-vous, dans les années 60, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement avait engagé une réflexion autour de comment stabiliser ces marchés. Alors on sait bien que c'est des intérêts privés, c'est des intérêts étatiques, mais on a abandonné cette idée-là. C'est-à-dire que c'est une extraordinaire complexité parce que la notion de prix minimum, par exemple, c'est quelque chose qui est compliqué à définir. Mais moi, j'aimerais qu'au plus haut niveau de l'État, il y ait une réflexion stratégique autour de notre rapport aux ressources, nos rapports aux prix, nos rapports aux autres pays, par le prisme des matières premières. C'est fondamental pour la paix mondiale.
Notre rapport aux ressources, très rapidement.
Bien, encore une fois, lorsqu'on a une opposition entre, par exemple, l'énergie fossile et l'énergie renouvelable, on oublie évidemment que l'on tire du côté de certains minerais, on oublie qu'il y a des problématiques de transformation, qu'il y a des revendications des États, des populations. Donc il y a une complexité tout à fait fondamentale autour des matières premières. Il ne faut pas regarder que le pétrole, il faut tout regarder, il faut tout mettre sur la table. Il faut regarder du côté des importateurs, des exportateurs, et puis essayer de trouver une position commune. Alors évidemment que là, je suis dans le registre de l'extrême utopie parce qu'on sait bien que le multilatéralisme est très largement menacé, donc je suis complètement à contre-courant, mais je voudrais qu'on s'empare de cette question qui est une question, encore une fois, fondamentale.
Merci à chacun. Philippe Chalmin, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine, expert des questions énergétiques et matières premières, président et fondateur de Cyclope, donc ouvrage collectif et bible des matières premières, dont la dernière édition vient de sortir. investir chez Economica. Et Yves Jégourel, directeur adjoint de Cyclope, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et Louise Calédec. Demain, nous parlerons des génocides après l'arrestation récente en France de l'un des génocidaires rwandais. À demain.